La naissance de la station de radio la plus puissante du monde.
Medellín, c'est la liberté.
La liberté, c'est aussi carbone.
Merci d'écouter RFI, il est 14h en temps universel, il est 16h à Paris.
Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît, l'histoire va vous parler.
Quand on va au cinéma ou au théâtre, on parle de public ou de spectateur. Par quel mot désigner alors ceux qui sont fidèles au poste, qui tendent l'oreille aux histoires qu'on leur raconte, qui s'installent, pour citer notre invité, dans la disponibilité de recevoir, de découvrir et d'apprendre. C'est un écouteur que nous recevons dans Irradier aujourd'hui, l'émission de radio qui parle de la radio avec ceux qui la font, et aujourd'hui donc avec un auditeur assidu, passionné et exigeant, qui a écrit pas moins de 1861 billets de blog pour et autour de la radio. Bonjour Fanch.
Bonjour Céline.
Merci d'avoir accepté cet entretien pour Transistor, et plus particulièrement dans cette émission Irradier, qui dès sa création s'est placée dans votre sillage, dont vous irradiez vous aussi, tous les amoureux de la radio. Alors on va arpenter ensemble quelques-uns des chemins que vous tracez quotidiennement sur votre blog radiofange.blogspot.fr, où vous publiez régulièrement des billets qui mêlent actualité de la radio et souvenirs radiophoniques. Écouteur, pour vous, c'est toujours ainsi que vous vous définiriez?
Oui, et d'abord je suis irradié de fait. Je suis écouteur, je pense encore, parce que nous sommes dans un café, je crois qu'on peut dire où, à la gare de Lyon, à Paris. Et ça me rappelle une anecdote de Pierre Lescure, le grand Pierre Lescure, qui était avec Catherine Deneuve, sa compagne, dans un café du 16e arrondissement. Ils arrivent, ils s'installent, et Pierre, naturellement, tourne la tête vers deux rombières qui est en train de jacasser. Catherine Deneuve lui dit, mais calme-toi, on va prendre un thé. Tout. Il lui dit, mais tu sais, depuis que je fais de la radio, c'est comme ça, je tends l'oreille. Ça m'a énormément plu, c'était dans son livre In the Baba. Ça m'a énormément plu parce que je suis exactement comme ça. C'est-à-dire que je crois que tout petit, j'ai été attiré par les histoires, par quelque chose qui sortait du poste, qui n'était pas mon environnement familial. Et après, je me souviens dans mes histoires de famille, justement, être au café ou partout, écouter, pas par curiosité, parce que ça ne servait à rien, une fois qu'ils sont partis, les gens, on s'en fout. Mais j'aime bien écouter, voilà. Donc, je pense que l'écouteur me va bien, mais j'ai un défaut aussi, ça en est un. J'aime bien écouter, mais de fait, j'aime bien un peu parler aussi.
Vous avez le don de raconter des histoires, d'ailleurs, sur votre blog, comme maintenant, à l'oral. Et c'est vraiment un plaisir de vous écouter aussi, vous, à votre tour. Donc, on l'a compris, votre passion, qui peut un peu tourner aussi à l'obsession pour quelqu'un qui regarderait un peu de l'extérieur, elle vient de votre enfance, c'est ça? Et comment est-ce que vous l'avez nourrie depuis?
Alors, elle vient de mon enfance, et avec un avantage, je n'ai pas eu la télévision. On peut dire que la radio aussi a été une présence. Mon histoire familiale fait que c'était quand même plus sympathique, rentrant de l'école, pour faire mes devoirs, d'écouter une très vieille émission, Salut les copains sur Europe 1. J'étais tout petit, petit, petit. Et c'était sans doute difficile de faire les devoirs en même temps, mais bon, peu importe. Et c'était une habitude d'écoute, et le soir aussi. Et sans flagornerie, je vais dire, quand j'ai rencontré José Arthur, malheureusement, 3 semaines avant son décès, à son domicile parisien, je lui dis en introduction, en installant mon Zoom, José, vous voyez à peu près qui je suis, parce qu'avec ma stature, mon âge et tout. Il me dit, oui, on a eu autrefois beaucoup de complicité sous les draps. Ça ne m'a pas du tout choqué, j'ai compris. Oui, José, effectivement, le soir, mon transistor, sous l'oreiller ou sous la couette, voilà. Donc ça m'a accompagné toute ma vie, en essayant, je crois, le pire que j'ai pu faire, c'était dans les années 90, je reçois des amis belges, dans le Nord Finistère. Et on part faire un tour de côte qui fait bien 2 heures à pied. Et j'emmène mon Walkman radio et j'écoute Chris, dimanche en roue libre, c'est peut-être pas cette émission-là, mais en tous les cas le dimanche après-midi, pendant 2 ou 3 heures. Et mes copains me disent, mais c'est scandaleux. Écoute, est-ce que pour l'instant, je t'ai pas dit que le phare du four, qu'est-ce que c'était et tout. Donc compte sur moi, mais il est hors de question que je n'écoute pas Chris. Donc certains de mes amis, mes enfants, ont vu à quel point j'étais malade. Je ne pense pas que c'est une obsession. C'est, je ne veux pas manquer un épisode de l'histoire. Ça, je le dis pour hier. Aujourd'hui, on va sans doute en reparler, c'est plus tout à fait pareil. Mais voilà, pendant longtemps, et je ne sais pas s'il faut le dire maintenant, mais ma plus grande joie a été, je ne vais pas dire l'année, comme ça je vais gagner un peu de temps, ma plus grande joie a été d'écouter la France Inter au mois de juin et d'entendre dire que Annick Beauchamp, à l'époque Madame Inter, c'était son titre, faisait la tournée des plages. Et la première plage, c'était Saint-Malo. Et Saint-Malo, j'y allais 2 jours après rejoindre mes grands-parents qui habitaient à Saint-Malo. Et alors, bien sûr, j'ai été. Il y avait des jeux de plage, sans doute, et une animation France Inter. J'ai fait ça. Et puis, Annick Beauchamp m'a choisi pour la photo de West France. Et alors, elle est grande. À l'époque, je suis en taille, je suis assez grand, mais je suis encore préadolescent. Et voilà, c'est rigolo, c'est un souvenir. Alors, je ne me rappelle de rien de ce que j'ai fait, mais ça montre bien que par petites touches, j'en suis arrivé un jour à passer la porte A de la maison de la radio.
On a effectivement l'impression d'une très très grande complicité dans la manière dont vous parlez de toutes ces voix d'ailleurs qui vous ont accompagné. Vous parlez aussi d'un aspect un peu rituel sur votre blog quand vous êtes à l'écoute justement de ces histoires. Comment s'organise votre journée d'écoute? Est-ce que vous justement vous faites tout en sorte pour la régler autour de d'émissions ou de rencontres que vous ne voulez pas rater? Ou c'est un petit peu différent aujourd'hui, avec notamment le streaming, le podcast. Comment est-ce que vous écoutez la radio aujourd'hui?
Alors, je commence par hier, comment j'écoutais la radio. Effectivement, je pouvais m'organiser absolument à partir du programme, de façon formelle, mais avec des contraintes. Je n'ai pas été rentier toute ma vie, je ne suis toujours pas. Donc, je travaillais. Mais je travaillais... À la fin, en ce moment, quoi, à la fin de mes carrières, dans un atelier, puisque je suis graphiste, et avant, quand j'étais agent de développement rural, j'étais dans un bureau ou dans ma voiture, et donc je pouvais écouter la radio. Il y a des choses que je ne loupais pas, parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Soit je ne loupais pas, et c'était bien, soit je loupais, et j'essayais d'avoir enregistré, sinon c'était mort. Et je ne pouvais pas, mais j'y reviendrai parce que ça c'est très important, je crois que c'est la première fois que je le dis, je ne pouvais pas lâcher, ce que j'ai dit tout à l'heure, un épisode, même si c'est pas un feuilleton. Pour moi, la radio, c'est un feuilleton. Donc je faisais ça avec l'anecdote que j'ai racontée sur le tour de grève, et il y a eu bien d'autres choses assez folles, du même principe, dans le train et tout. Voilà, partout, alors très difficile à l'époque, un Walkman radio dans le train, au secours les ondes. Hein. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Puis après, bien sûr, est arrivé le luxe, le confort du streaming et du podcast. Alors j'ai pu me dire, voilà. D'ailleurs, j'ai fait un billet, peut-être à la rentrée 2013 ou 2014, peut-être. J'ai dit, voilà ce que je vais écouter, ça en flux, ça en podcast. Et gros dilemme, comment choisir entre Inter et Culture? Est-ce que j'écoute Laurentin en flux et puis Trapenard et De Villers en, voilà. Donc ça, bon dilemme, je m'en arrange et tout. Mais la grosse évolution à laquelle je ne croyais pas, c'est que avant j'écoutais la radio, maintenant j'écoute des émissions. Et ça fait mal parce que je ne suis plus dans le même ADN. S'il y a quelque chose qui est rompu, moi je ne suis pas scientifique comme toi, et moi je crois que l'ADN c'est une chaîne, et bien dans ma chaîne d'ADN radio, il y a quelque chose qui est rompu. Qui est rompu depuis la grève de fait un peu, mais pas que. pas que. Petit à petit, la radio nous a plus ou moins imposé de nous dire, écoutez, vous inquiétez pas, vous pouvez morceler, picorer, machin, non. Ça, ça me va pas. Qu'est-ce que c'était bien quand j'écoutais la radio de 7h le matin à minuit sur Culture, sans pratiquement discontinuer. C'est énorme. Et je prenais des notes et tout, avant de faire mon blog. Hein.
Est-ce qu'il y a des émissions que vous n'écouteriez pas du tout en podcast, mais simplement au moment où elles passent? Par exemple, je pense à La Nuit, où finalement, c'est des émissions qui ont un tempo particulier, qui s'adaptent à certaines justement parties de la journée, comme La Nuit. Et comment est-ce que vous les vivez, ces émissions?
Alors, c'est très très juste, effectivement. Et je pense que le pire aujourd'hui, c'est La Nuit de France Inter. Hein. On a des je refuse d'écouter. En plus, on a les nuits de France Culture, où là, c'est un vrai bonheur. Mais je pense que même, prenons le cas d'Easy Tempo sur France Musique, je suis malheureux quand je ne peux pas, pour cette saison qui vient de se finir, quand je ne suis pas à 18h à l'écoute. Bien sûr, ça sera pareil à 4h du matin, ou à 8h du matin. Ah, ça sera pareil, mais je sais pas, je suis peut-être un peu niais, moi. Hein. Ah, il se trouve que j'étais dans le studio dimanche, mais voilà, je les vois, il est 18h, il fait plus ou moins jour, c'est l'été, il fait 13 jours. Voilà, Lebrun, 13h30, c'est moins grave, parce que je le connais beaucoup. Alors je me dis, après tout, bon, ça, je veux bien l'écouter en streaming. Hein. J'ai fait l'impasse totale sur les podcasts. J'avais une bibliothèque de podcasts énorme. Et un jour, je me suis dit, on va voir, qu'est-ce que tu fais avec? Rien. Je n'ai pas le temps. Les journées ne font que 24 heures. Je n'ai pas le temps de réécouter. Ah, sûr, j'ai des... J'allais employer un mot qui ne va pas du tout. J'ai été galvaudé par... Bon, M. Gallet m'a parlé de FIP, donc je n'emploierai pas le mot que je déteste. J'ai quelques petites choses comme ça qui sont gardées précieusement. Mais en même temps, le paradoxe de notre époque, c'est que non seulement j'ai la mémoire, mais en plus, il faudrait que je fasse une mémoire courte. Et ça me fatigue un peu. Dans 20 ans, peut-être que je serais content de réécouter Laurentin. Et aujourd'hui, je me dis, bon, tant pis. Alors forcément, s'il fait une semaine sur la Bretagne, bon, j'ai peut-être la garder. Mais voilà, c'est... Moi aussi, je me mets dans l'éphémère. Je suis plus sévère de sélection. Et au début des podcasts, on était avide de prendre ça parce qu'on n'avait tellement pas l'habitude. On se disait, ouais, super. Là, écoute, zéro.
En écoutant, au début, vous preniez des notes et puis petit à petit, vous avez fait un blog. Qu'est-ce qui vous a donné envie aussi de partager vos écoutes un peu plus largement? L'envie de garder tout ça ou alors de vous mettre à partager vous aussi à votre tour?
Je sais pas, ni l'un ni l'autre, je pense. Le truc, c'était que mes copains ne supportaient plus de m'entendre dire « T'as entendu dans l'émission, il y a machin qui a dit que t'es fou, pourquoi tu t'occupes de ça ?»« Mais cours quoi, tu t'intéresses à ça ?» Bon, j'ai dit « Les gars, vous êtes bien gentils, les gars et les filles, parce que les filles ne m'ont pas loupé non plus. » Et j'ai décidé d'écrire sans aucune vanité, sans me dire « Oh là là, je vais être lu et tout. » J'en savais fichtre rien. Il y a juste 6 ans, j'ai commencé le 17 juillet, j'ai fait 174 visites dans le mois de juillet. Et aujourd'hui, j'oscille entre 12 et 15 000 par mois. Donc, forcément, je venais de nulle part. Et je m'en fous un peu. J'ai pas pensé, au départ, écrire pour les autres, un petit peu en leur disant, ben voilà ce que j'entends, est-ce que ça vous intéresse? J'étais très surpris de la ferveur de mes auditeurs. J'ai dit ça exprès, mes auditeurs lecteurs. Et j'ai voulu témoigner, dans un souci aussi de transmission, mais de transmission large, qui veut. J'ai du mal à comprendre que des producteurs ou des gens qui travaillent à la radio arrivent et se disent, voyez, on est l'an 1 de la radio, il y a un micro, c'est super facile, je fais gouzi 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 gouza, avant, pff, ah bon, oh ben non, ah ben on s'en fout, voilà. Est-ce qu'il y a des archives? Est-ce qu'il y a une mémoire? Est-ce qu'il y a de la doc? On s'en fout! La directrice nous a dit, vous êtes tellement génial. À la télé, je vous ai regardé pendant des années. Vous m'avez fait frémir. Je pense que vous serez bon. au micro, ce qui est absolument faux. Voilà. Donc, j'ai écrit pour moi. Ça a plu aux autres. Je n'ai pas ménagé ma peine, puisque vous avez la gentillesse de rappeler le nombre de petits billets que j'ai écrits. Vous l'avez lu aussi, je vais calmer le jeu et je vais faire autrement. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais je suis quand même un peu en teasing, hein. Je ne vais pas trop dévoiler.
Vous écrivez majoritairement sur l'audiovisuel public. C'est un choix, vous n'écoutez que ça, pourquoi ?
C'est à la fois un choix et une réalité. J'écoute, on va dire, Europe 1 10 fois par an, sur un événement. Bon, par exemple, je regrette de ne pas avoir écouté la dernière matinale de Soto. Je pense que je vais essayer de la réécouter en streaming. Pas pour l'éloge qu'a fait Cohn-Bendit. J'ai un peu peur, mais voilà. J'écoute RTL 10 fois par an. Mais j'ai été biberonné à la radio publique. Même tout à l'heure, si j'ai parlé de « Salut les copains ». Ce biberonnage a fait que j'ai poursuivi. Et aujourd'hui, je l'ai dit à Sylvain Gire d'Arte Radio, tant que tu m'enverras une newsletter pour me dire il y a ça qui est sorti, ok. Sinon, je n'ai pas le réflexe de me dire, tiens, il est 14h30, je m'ennuie. Ou est-ce que je vais aller regarder sur Arte Radio ? Non, je suis noyé dans la masse des choses que chacun d'entre nous fait. Et alors, j'ai chroniqué la très bonne série de Pascal Braqueur. Heureusement que je ne suis pas passé à côté. Mais moi, ce que j'aime, c'est les rythmes, les rites et les rendez-vous. Je ne tergiverserai pas là-dessus. C'est mon truc. C'est de ma génération. Je suis pas un vieux con. Je suis content d'aller écouter Binge et Cernobori et tout ça. Oui, d'accord. Mais c'est pas pareil parce que je me dis il faudra que je réécoute la suite. Ou est-ce que c'était si pratique? 14 heures, bam. Quelquefois Mermet, quelquefois d'autres, etc., etc.
Justement, dans la forme même du blog et des billets qui tombent un petit peu tous les jours, justement, il y a aussi un rythme et un rite, puisqu'ils arrivent quotidiennement, à heure fixe, etc. Dans la forme même, est-ce que c'est dur d'écrire à propos de la radio, de mettre des mots sur ce qu'on entend? Et puis, est-ce que le format feuilleton un petit peu, puisque vous aussi, vos billets, parfois, ils font suite, on les attend, etc. Est-ce que c'est quelque chose de conscient?
Absolument. J'ai testé tout au début de mon blog, donc en juillet, plein été, impeccable, les heures, 18h et tout, ça va pas. Je me suis dit, ça sera le matin. Moi, je suis pas du tout dans les penseurs de la Google sphère, les transports en commun, tout le tritus qui triture et tout. Non, je me suis dit, on commence sa matinée, je ne sais pas comment on va m'attraper, et je serai le matin. Et en admettant que, au mois de septembre 2011, les gens m'apprécient et envie de lire, ils voient un billet le lundi, puis ils y retournent le mardi, il n'y a rien. Mercredi, il n'y a rien. Jeudi, il n'y a rien. Vendredi non plus. Ah, samedi, il y a un truc. Bon, donc il n'écrit pas tous les jours. Comment ils vont revenir? Donc je me suis dit, je vais faire comme la radio. Je vais donner un rendez-vous fixe tous les jours, du lundi au vendredi. J'ai commencé. Et le premier samedi est arrivé, je me suis dit, c'est moi qui étais frustré. J'ai dit, je ne peux pas m'arrêter, j'ai entendu un truc, vas-y pour le samedi. Et bam, le dimanche. Donc la première année, ça a été de la folie. Les trois premières années, ça a été de la folie. Parce que forcément, si on multiplie 365 par 6, et qu'on voit le nombre que j'ai écrit, il y a un, voilà. Mais c'est vrai que depuis 2 ans, j'essaye de plus me tenir à 2 billets par semaine, bien séquencé, hein. Là cette année c'était lundi, dimanche, et donc c'est pas tellement difficile d'écrire, et je vais revenir sur la notion d'écrire par rapport à ce qu'on entend, mais c'est absolument une mécanique, c'est-à-dire c'est comme déjeuner, prendre sa douche ou faire un footing, c'est-à-dire qu'on est entraîné. Moi il se trouve que je fais des déplacements et tout. Et quand j'arrive dans cette merveilleuse Ardèche, j'ai envie de prendre un pistolet et de me dire c'est foutu, parce que je n'ai pas de réseau, je n'ai pas de Twitter, c'est là, c'est dingue. Alors je trouve des combines invraisemblables et je fais, parce que je ne veux pas décevoir mes lecteurs, auditeurs. Et donc, ça c'est le premier point. Après, rire pour la radio, je dois dire qu'au départ, je devais sans doute être assez benêt. Benet, peu importe, parce que je disais, voilà, j'ai entendu ça, il est génial, Pierre Bellemare, Gérard Cyr, Chris, voilà. Bon, c'était gentil, sans doute, je sais pas, hein, j'ai pas relu. Hein. Et je me suis rendu compte que, dans tous les cas, il fallait que j'écrive sur ce que j'avais entendu, sur ce que j'allais entendre quand je reçois les émissions par avance de France Culture, et puis sur des archives. Et là, il a bien fallu aller un peu plus loin que « Oh, qu'est-ce qu'elle était géniale, je rêvais dans ma chambre, zéro. » Donc j'ai appris aussi à essayer de faire quelque chose de la critique, qui est absolument subjective, mais ça ne va même pas le dire, et de creuser, de fouiller un peu, puis après de prendre parti. Parce qu'au bout d'un moment, j'avais beau adorer, idolâtrer, c'est merveilleux et tout, certains me taquinaient au début, qui m'ont connu à la maison de la radio, en me disant « Mais Franche, tu nous aimes tant et tout. » Oui, puis il y a eu un moment où j'ai continué à les aimer, mais j'ai moins aimé d'autres choses qui se sont passées à la radio et qui vont bien sûr faire la mue, ce que j'ai écrit il y a longtemps. Après la mue du bâtiment, on arrive à la mue à la fois des moyens de production, des systèmes, de l'idée même de radio de flux. Donc là, je ne peux pas rester les bras ballants en disant « ouais, it's good for you », en breton bien sûr.
Effectivement, vous l'écrivez très clairement sur votre blog, je vous cite « Si la radio publique baisse trop le niveau, je l'écris. Si elle ouvre de nouveaux horizons, je m'empresse d'en parler. » Alors, avant d'évoquer peut-être ces nouveaux horizons, on va se tourner vers les choses qui fâchent d'abord et que vous observez d'un œil très critique et pas du tout complaisant d'ailleurs. Récemment, les difficultés des locales de FIP, par exemple, les changements de direction, d'orientation à Radio France, les vocations insistantes d'un nouveau média global avec les guillemets qui s'imposent, ont valu quelques billets sur votre blog, justement quelques remarques assez acerbes. Pour vous, l'audiovisuel public aujourd'hui, est-ce qu'il est en danger ou est-ce que finalement ce sont juste des changements, des évolutions qu'il faut critiquer mais peut-être aussi un peu accompagner ?
Je ne dirais pas qu'il est en danger. Je dirais qu'il est, il est impensé. C'est-à-dire que on a vu des fous furieux en 68 au gouvernement dire, avec Alain Pierrefitte, entre autres ministre de l'Information, « faut raser tout ça ». Alors que la maison de la radio était ouverte depuis 5 ans, 63. Quand nous serons au pouvoir, nous changerons. C'est pas tombé dans l'oreille du sourd Giscard, qui, en 83 jours, après son élection de mai 74, a explosé l'ORTF. Par dogmatisme, monsieur le président de la République avait décrété qu'il n'y avait que des rouges et des syndicalistes à l'ORTF, donc il fallait foutre ça à la poubelle. Mais est-ce que pour autant, ce rien avait pensé autre chose ? Rien du tout. Il avait été ultra-libéral, il a dit « mais on va mettre tout ça indépendant, et puis après, ben, TDF est devenu américain, j'en passe et des meilleurs. » Donc, impensé total. La gauche médite depuis longtemps, avec des gens comme Georges Filiou, et là, ils sont un peu pris à un piège, je dirais, de génération. Ils voient bien les radios libres avancer beaucoup. Mitterrand lui-même jugé pour avoir Radio Riposte riposté. Mais ils ont très peur, eux aussi dogmatiques, que la droite s'empare de ce média libre pour les contrer. Donc, ils arrivent au gouvernement en 81, à gouverner plutôt en 81, et il y aura la loi Filiou sur l'audiovisuel de 82, mais je dirais un peu contraint et forcé. Puis on aura la haute autorité de l'audiovisuel, etc., etc. Mais le cordon ombilical jamais rompu, même aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est un nouveau petit chef, Schrammeck, qui fait la pluie et le beau temps. Enfin, il va plus la faire longtemps. Hein. Et qui dit donc, on fait ci, on fait ça. Qu'il soit gendarme de l'audiovisuel, oui, qu'il aille jusqu'à nommer le président, mais ça me dépasse, bien sûr. De l'audiovisuel public, je trouve ça anormal. Et surtout, qu'il permette un huis clos à Gallet et que Gallet ne présente pas son projet stratégique, c'est absolument inadmissible. Donc, l'audiovisuel n'est peut-être pas Et puis là, je parle que de la radiophonie. Hein. Pour moi, il est impensé. Et donc, en fonction du prince, on évolue. Alors, le nouveau prince qui s'appelle Gallet avait pris un petit prince avec lui qui s'appelait Schlesinger, qui lui a fait tout le boulot. Hein. Lui, il a dit, moi, je vais manager. Manager de moins de 50 ans, bien sûr. Je vais manager, et puis toi, tu vas me faire l'éditorial. Et l'autre, il est arrivé avec la Kachnikov ou la grosse Bertha, et il a élagué. Et Schlesinger, il n'en a rien à foutre de film. Pour lui, c'est dépassé total. Il a fait du RFM, donc il sait à peu près ce que c'est qu'une radio avec de la musique, mais privée. Pas la musique est de fait privée, la chaîne est privée. Et donc, s'il pense que FIP est intéressant à Paris, en diffusion hertzienne, ailleurs si on veut, en RNT demain sûrement, puis en web, sur le web. Je ne parle pas des web radios de FIP, sur le web. Donc, quand on lui dit qu'il y a de l'animation locale à Bordeaux, Nantes et Strasbourg, il dit pourquoi faire ? On n'a qu'à faire ça à France Bleu. Donc il y a une méconnaissance du territoire. C'est un stratège, économique. Il vient de chez Lagardère, il y retourne, il prend la direction d'Europe 1. Et voilà, donc on l'a mis là parce que Gallet l'a mis là. Gallet n'a pas du tout le sens du service public, mais pas du tout, du tout. Il peut arriver là maintenant, je lui dirais texto. Et je lui dirais, monsieur, non seulement vous n'avez pas le sens du service public, mais en plus, quand vous demande vos références de radio, vous nous citez Chancel. C'est un peu court. Oui, c'est vrai, vous n'aviez que 37 ans. À 37 ans, dans votre vie, vous n'avez entendu que Chancel. Vous êtes déjà très vieux, monsieur, parce que Chancel, jusqu'à preuve du contraire, il a quitté la radio en 90. Hein. Alors, on est en 2014. Ouh. Voilà, bon. Donc, je suis très, très en colère sur l'impensé de l'audiovisuel public de radio. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, il y a pu avoir un ersatz de rapprochement, en vue du grand rapprochement entre France Info Radio et une création d'une chaîne continue d'information. Et Gallet et Ernaut aimeraient bien jouer dans la cour sans autorité au-dessus. Mais on essaye ça, France Culture. France 5, Culture Box, je viens d'entendre parler, bon. Voilà, on essaye. Non. Alors, le seul penseur, on pourrait dire, de la radio, c'est Marc Schwartz. Marc Schwartz, qui est aujourd'hui directeur de cabinet de Françoise Nyssen, ministre de la Culture, et non plus de la Communication, ministre de la Culture. Lui, il a écrit un rapport sur France Télévisions, mais il parle de radio entre les lignes. Il dit, et là, il faut se référer à mon billet du 5 mars 2015, je m'en souviens bien, parce que ce monsieur Schwartz, que je n'ai rien contre lui, hein, m'a empêché de finir Truman Capote. Donc ça, c'est... Je suis désolé, mais par conscience professionnelle, j'ai arrêté de lire Capote et j'ai lu les 120 pages de Schwartz. Et il parle déjà d'une refonte de l'ORTF, etc., etc. Voilà. Donc l'impensé ne me va pas, mais ça va dans l'air du temps. C'est-à-dire que les gens se disent... Qu'est-ce que c'est que la radio ? C'est rien, c'est pas grave, quoi. Du moment qu'il y a des bonnes matinales, que les politiques, nous, on peut venir parler dedans, que Cohen sera bientôt statufié, ben tout va bien, voilà.
Justement, vous refusez ou vous vous élevez régulièrement contre la tyrannie du tout-info, en continu, de l'infotainment ou encore de ce que vous appelez l'info multifacette. Vous dédaignez d'ailleurs les matinales un peu trop millimétrées, qui font pourtant un beau succès d'audience à Radio France. Pourquoi est-ce que vous ne les suivez pas, tout simplement ? C'est aussi intéressant, non, d'écouter ces heures de grande audience.
Ben oui, mais le problème, c'est que j'ai été biberonné à un moment donné avec France Culture. Alors, je vais vous donner le découpage du matin, quand c'était Culture Matin avec Jean Lebrun. 7h, 7h02, les titres. 7h30, le journal, 10 minutes. 8h, rappel des titres. Terminé. Voilà. Alors donc, 1986, le monde entier, je ne sais pas, l'État, Radio France nous prenait pour des idiots, nous disait écoute France Culture, ça vous a 10 minutes d'infos. Et après, on est devenu beaucoup plus intelligent. Donc 86, 2016, 30 ans, hein. Et là, il fallait 2 heures de set d'infos. Non, 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 non et non. Ça ne m'intéresse pas. Le délayage à la RNR et compagnie, ça ne m'intéresse pas. Je lis un grand journal français, pas parisien, mais bon, dans la rédaction est à Paris. Journal du soir, on dit, qui paraît à 13h. Ça ne me va pas l'information du tout, du tout, du tout. Par contre, j'adorais, je suivais la session de Culture Matin, ça m'allait très bien. C'est la tarte à la crème de la radio, parce que le matin, les gens ne sont pas devant leur télévision. Les matinales sont écoutées dans les voitures. La plus grande consommation des matinales est dans la voiture, donc c'est du billard. Donc Laurence Bloch peut toujours pérorer quand elle dit au revoir à Patrick Cohen, la matinale de France Inter et la vitrine de France Inter, tout est dit. Ah bah si c'est la vitrine, alors moi je passe pas la porte. Donc je regarde, bah je vois, je m'arrête pas. Autrefois je m'arrêtais. Autrefois c'était les programmes qui étaient la vitrine de France Inter. Aujourd'hui c'est l'info, ça m'intéresse pas.
C'était la première partie d'un entretien avec Fañch Langoé, la radio qui s'est créée dans tous les sens du terme. Il a été enregistré en juillet dernier à Paris, et pour la suite, rendez-vous la semaine prochaine sur transistor.fr. On y évoquera ses coups de cœur, ses belles découvertes, et aussi le festival Longueur d'onde, un événement annuel incontournable pour tous les amoureux de radio. En attendant, n'hésitez pas à aller découvrir ses billets et ses histoires sur radiofanche.blogspot.fr avec une toute nouvelle série consacrée à l'avant mai 68. Passez une très belle semaine et laissez-vous irradier. In the